Alors, la catastrophe de Fukushima a mis sur le devant de la scène, le devant de l'actualité, la question des risques du nucléaire. Alors, c'est effectivement un problème majeur, et évidemment, tout particulièrement pour les riverains des centrales nucléaires, ceux de la région de Fukushima, bien sûr, mais encore ceux de Fessenheim, en Alsace, par exemple, que les déclarations des dirigeants d'EDF ou d'Areva sur la sûreté des installations ne doivent pas rassurer. Alors, pour notre part, nous voulons aborder ce problème d'un point de vue communiste. Parce que les problèmes posés par le nucléaire, ils sont de même nature que tous les problèmes qui ont marqué l'introduction de chaque nouvelle invention technique, de chaque progrès de quelque nature que ce soit, durant toute l'histoire du capitalisme. Depuis plus de deux siècles, la bourgeoisie, elle a développé les forces productives dans des proportions jamais connues auparavant. En s'étendant sans cesse d'un secteur économique à l'autre, le mode de production capitaliste, il a unifié la planète dans un vaste marché mondial. En généralisant l'usage de la machine à vapeur, en introduisant partout des progrès techniques, scientifiques, on peut dire que le capitalisme, il a démultiplié les capacités de production de l'humanité. Et de ce point de vue, on peut dire que la bourgeoisie, elle a joué un rôle historique progressiste. Pour reprendre une formule de Marx, elle a permis de créer de toutes autres merveilles que les pyramides d'Égypte, les aqueducs romains ou les cathédrales gothiques. Et ce développement important des forces productives, c'est lui qui a rendu possible un allongement spectaculaire, par exemple, de l'espérance de vie humaine. C'est lui qui a permis la maîtrise des lois de la nature dans tous les domaines, de la biologie à la médecine, de la physique et la chimie à toutes les technologies. Mais ces bouleversements dans la façon de produire les richesses, ils avaient, depuis le départ, ils ont comme moteur la recherche du profit par la bourgeoisie. Et du coup, dans ces conditions, chaque invention, chaque progrès scientifique, en même temps qu'il ouvre la porte à une amélioration du sort de l'humanité, eh bien, il se retourne en menace mortelle, aussi bien contre les hommes que contre la nature. Alors, c'est une vieille histoire. L'invention des machines à filer ou des métiers à tisser mécaniques qui auraient dû libérer les artisans d'un travail pénible, eh bien, les ont ruinés et les ont transformés en prolétaires, condamnés à trimer dans des bagnes industrielles. Pour baisser les salaires, à la même époque, la bourgeoisie elle a envoyé au fond des mines des enfants de 6-7 ans. Pour extraire du charbon au moindre coût, elle a provoqué la mort de dizaines de milliers de mineurs, que ce soit directement à travers des explosions, à travers les effondrements parce que les mines étaient boisées à minima, ou que ce soit à petit feu à cause de la silicose qui touchait les mineurs. À la même époque, elle a asphyxié littéralement pendant plus d'un siècle les habitants des grandes agglomérations, des grandes villes industrielles à cause des brouillards chargés de la suie du charbon. Et finalement, depuis le charbon et les machines à vapeur, chaque nouvelle invention, chaque nouveau progrès, eh bien, il a vu se reproduire le même scénario. On ne peut pas, en fait, faire la liste des catastrophes sociales, économiques, sanitaires, environnementales qui ont été provoquées par la recherche du profit capitaliste. On ne peut pas en faire la liste parce qu'elle serait trop longue. Alors, aux victimes du charbon, on peut ajouter depuis celle de l'essence plombée, de l'amiante, de la dioxine et de multiples autres substances toxiques. Toutes les catastrophes industrielles, en fait, depuis, par exemple, la catastrophe minière de Courrières en 1906, qui a fait plus de 1000 morts à l'époque, jusqu'à celle de Bhopal en Inde en 1984, qui a provoqué la mort de 20 à 30 000 personnes. Eh bien, ces catastrophes, elles sont toutes d'abord le résultat de l'irresponsabilité, de l'avidité d'industriels qui jouent délibérément avec la peau des travailleurs, de la population, des riverains. Alors, ce constat, eh bien, depuis le milieu du 19e siècle, les communistes, qui étaient Marx et Engels, eh bien, les communistes dénonçaient les ravages causés par la soif de profit à court terme. Déjà, ils dénonçaient aussi bien leurs conséquences sur les travailleurs que sur la nature. Engels, par exemple, a écrit des pages poignantes sur le sort de la classe ouvrière naissante en Angleterre dans la première partie du 19e siècle. Et bien, dans ce même ouvrage, il dénonçait déjà la pollution, les maladies provoquées par l'industrialisation sauvage. Mais ce que Marx et Engels dénonçaient, ce n'était déjà à l'époque ni la technique ni le progrès scientifique, bien au contraire. Ce qu'ils dénonçaient, c'était l'organisation sociale, c'est-à-dire la propriété privée des moyens de production. Et c'est ça qui caractérise justement cette société capitaliste. Toutes les machines, toutes les usines, tous les moyens de production, aussi complexes, aussi performants qu'ils puissent être, eh bien ils sont mis en œuvre par une minorité d'actionnaires privés qui en ont la propriété. Et du coup, chaque choix, chaque décision, elle n'est mue que par l'intérêt privé immédiat, quelles que soient d'ailleurs les conséquences pour la population, pour les travailleurs, sur la nature. Alors, cette minorité, elle concentre l'essentiel des richesses, tandis que la majorité de la population, eh bien, ne peut accéder au progrès technique, médical, culturel, qu'avec du retard, et encore quand elle peut y accéder. Parce que ces détenteurs de capitaux, eh bien, ils condamnent des dizaines de millions de travailleurs valides au chômage, à la misère forcée, et en même temps, eh bien, ce sont des dizaines de milliers d'autres qui doivent s'user, trimer sur des chaînes de production. Tout est contradictoire dans ce système. Et en plus, ceux qui mettent en œuvre ces moyens techniques, eh bien, ils le font, encore une fois, au mépris de la santé des travailleurs, de la population. Alors, face à cette dictature des capitalistes sur l'ensemble des moyens de production, face au gâchis qu'elle engendre, au ravage qu'elle peut provoquer, eh bien la perspective que nous, militants communistes, nous défendons, eh bien c'est leur expropriation, c'est leur mise sous contrôle par les travailleurs. Et c'est seulement à ce moment-là que les choix de la société, dans la façon dont elle décide de produire les richesses, eh bien, ces choix ils pourront être faits collectivement, ils pourront être faits de façon éclairée, en prenant en compte justement les conséquences immédiates comme les conséquences lointaines. Alors, cette perspective qui était déjà nécessaire à l'ère du charbon, eh bien, on peut dire qu'elle est devenue encore plus vitale à l'ère du nucléaire. Parce qu'entre-temps, les moyens de production, tout comme le caractère nuisible du capitalisme, bah, ils se sont encore aggravés. Alors, pour nous, c'est ça le fond de la question. Et finalement, ce que la catastrophe de Fukushima, elle illustre une nouvelle fois, bah, c'est exactement ceci. Alors, bien sûr, évidemment, c'est légitime, c'est normal, c'est que la catastrophe de Fukushima, elle inquiète, elle révolte, il y a vraiment de quoi. Alors, il y a de quoi être révolté par les mensonges de TEPCO sur l'état des installations, les falsifications des rapports pour éviter des travaux, parce qu'ils voulaient minimiser ça. Et c'est avec la peau des travailleurs, la peau du voisinage que les TEPCO, tout comme en France les Areva, les EDF, eh bien c'est avec cette peau qu'ils jouent quand ils économisent sur la sécurité. C'est avec la peau de la population et des travailleurs qui jouent quand ils provoquent des rejets radioactifs accidentels sans prévenir, quand ils font transiter des convois de déchets en plein milieu de déchets radioactifs, en plein milieu de zones urbaines, ou alors, on en reparlera, quand ils ont recours massivement à des sous-traitants qui sont moins bien protégés, moins bien suivis médicalement. Et les camarades raconteront tout à l'heure que ces pratiques, elles n'ont rien de spécifique à TEPCO. Il y a de quoi également être révolté de la complicité active des gouvernements avec ces industriels. Au Japon, le gouvernement il a fermé les yeux sur les mensonges, sur les défaillances de TEPCO. Il a étouffé les mises en garde répétées de scientifiques, en particulier des sismologues, qui annonçaient par avance que les coefficients de sécurité des centrales nucléaires étaient insuffisants. Une fois que la catastrophe a éclaté, ce gouvernement il a laissé le patron privé TEPCO gérer à sa guise la centrale, tout en poursuivant les mensonges qu'il avait déjà largement fait. Et puis il a même eu le cynisme de voler au secours financièrement de cet exploitant privé sous prétexte qu'il était ruiné, qu'il ne pourrait pas indemniser les victimes. Mais la population japonaise, elle, pendant ce temps, elle était laissée livrée à elle-même sans secours et en tout cas sans voilà, subir les conséquences. Bon, ce qu'a fait le gouvernement au Japon, c'est qu'il a relevé les seuils légaux de radiation que la population ou les ouvriers des centrales peuvent officiellement subir. Hein, ce qui va lui permettre en fait de dégager sa responsabilité quand les premiers décès interviendront d'ici quelques mois ou quelques années en tout cas. Pareil, c'est extrêmement choquant de voir que les écoles sont rouvertes dans la préfecture de Fukushima. Là encore, en permettant aux enfants de subir d'être exposés au même niveau de radioactivité que les ouvriers des centrales, sans en connaître les conséquences, évidemment. Alors, c'est évident qu'il serait légitime, il serait souhaitable que tout ça provoque de la révolte parmi la population, et une révolte qui s'étend, qui s'approfondisse. Alors, bon, nous ne savons pas si ce sera réellement le cas, si tous ces comportements, cette irresponsabilité, ce sera l'étincelle qui va provoquer l'explosion. Le capitalisme, il provoque des milliers d'ignominies qui, chacune d'entre elles, pourraient être le point de départ à une révolte, et celle-là, il y a de quoi la provoquer. Mais si cette révolte devait prendre corps, eh bien, il faudrait qu'elle se tourne justement contre la cause de cette catastrophe, c'est-à-dire contre l'organisation sociale qui est responsable de cette énième catastrophe, contre le système capitaliste, contre la loi du profit et contre l'appareil d'État qui le perpétue. Et c'est un autre aspect du problème, c'est qu'à ce jour, la catastrophe de Fukushima, elle sert surtout de tremplin à toute une série de politiciens en quête de postes électifs. Alors, de Nicolas Hulot à Cécile Duflot, ceux qui se réclament de l'écologie politique, eh bien, ils tentent de profiter de l'inquiétude qui est suscitée par le nucléaire pour se faire de la pub et surtout pour se faire élire. Ah, il fallait voir la satisfaction sans retenue de Cécile Duflot le soir des élections cantonales, quand elle a vu que le nombre d'élus de son parti était doublé, et là, les victimes de la catastrophe japonaise semblaient bien oubliées. C'est aussi l'émotion suscitée par Fukushima qui a permis aux Verts du Bade-Wurtemberg en Allemagne de remporter les élections régionales en mars et de se retrouver pour la première fois à la tête, enfin à la présidence de ce Land. Et c'est encore la sensibilité de l'opinion publique allemande à cette question du nucléaire qui explique très largement l'annonce soudaine par le gouvernement de droite de Merkel de la sortie du nucléaire en Allemagne d'ici 2022. Alors, tous ces gens qui sont devenus des opposants au nucléaire, en même temps, ce sont des défenseurs de l'économie de marché, des défenseurs de la propriété privée. Je rappelle que la fondation Hulot, elle est financée par des groupes comme L'Oréal, comme TF1 ou encore par EDF. Alors, quand ils sont au pouvoir, eh bien, ces écologistes politiques, ils se soumettent aux intérêts du patronat. Entre 1997 et 2002, Dominique Voynet, elle a été ministre de l'Environnement du gouvernement Jospin. Ce gouvernement Jospin, il a défendu la filière nucléaire du début jusqu'à la fin. C'est lui qui a créé Areva en fusionnant la Cogema, qui était une entreprise publique, et Framatome, qui était une société privée. C'est encore ce gouvernement Jospin qui a lancé le programme EPR. Et ce programme EPR, c'est la cible favorite de Dominique Voynet et d'un certain nombre d'écologistes. Enfin, ils manifestent régulièrement contre ce projet. Elle a également réclamé un référendum sur le nucléaire, mais elle n'a jamais claqué la porte quand le gouvernement Jospin refusait. Alors, bon, voilà l'attitude d'un certain nombre d'écologistes politiques qui profitent de l'occasion par opportunisme. Alors, je ne parle pas ici des associations, des militants qui dénoncent les conditions, par exemple, dans lesquelles les déchets sont transportés, sont retraités ou stockés. Je ne parle pas l'association, encore une fois, comme la CRIRAD, par exemple, qui font des mesures de radioactivité aux abords des installations et qui se sont donné comme tâche de rendre tout ça public. Et ils ont bien raison de le faire, puisque ni Areva, ni EDF, ni même l'autorité de sûreté nucléaire qu'on nous présente comme indépendante ne le fait. Et de ce point de vue, ces militants, ils font œuvre utile en combattant tel ou tel aspect particulièrement choquant de l'industrie nucléaire. Mais ce n'est pas la même chose que ces politiciens qui font de l'écologie leur fonds de commerce. Et donc c'est de cela dont on discute, pas seulement d'ailleurs de ceux qui se réclament exclusivement de l'écologie, mais enfin ceux qui, à droite ou à gauche, font mine de s'en préoccuper et qui se servent des inquiétudes sur l'environnement, des menaces que l'industrie capitaliste peut faire peser sur la santé publique pour, en fait, essentiellement, d'abord faire avancer leur carrière. Parce que ce qu'ils ont tous en commun, ces politiciens-là, c'est qu'en fait, ils ne cherchent pas, ils ne veulent pas contester le pouvoir de ceux qui possèdent les moyens de production. Or, dans l'énergie, comme dans bien d'autres secteurs, comme dans tous les secteurs, eh bien, ce sont des grands groupes, ce sont les GDF Suez, les E.ON, RWE, et un certain nombre d'autres, pas très nombreux, qui en fait décident seuls de quel type d'énergie ils produisent, dans quelles conditions de production, quelles conditions de sécurité. Et leurs critères de décision, systématiquement, eh bien, ce sont les espoirs de profit de leurs actionnaires. Et les décisions que les actionnaires principaux de ces groupes prennent en tout petit comité, eh bien, au fond, ils ont bien plus de poids que les décisions que peut prendre tel ou tel gouvernement. Et le refus des responsables politiques qui se réclament de l'écologie, de remettre en cause le pouvoir de ces groupes, eh bien, ça revient à leur laisser la dictature sur la société, ça leur revient à les laisser détruire la planète à leur guise, comme ils détruisent déjà, depuis un bon bout de temps, la santé, la vie de millions d'êtres humains. Et du coup, eh bien, ça juge la politique de ces groupes écologiques. Alors, on verra dans les prochaines années ce que vaut l'annonce du gouvernement allemand sur sa sortie du nucléaire, ce que ça changera aux dangers qui menacent la population. On peut déjà souligner que pour remplacer l'électricité produite par les centrales qu'elle va arrêter, l'Allemagne devra importer au moins en partie de l'électricité nucléaire produite par ses voisins. Alors, on pourrait dire qu'elle repousse comme ça les dangers dans le jardin des voisins. Bon, mais c'est même pas vrai, puisque en cas d'accident, les radiations, elles s'arrêteront pas aux frontières. Et déjà, ça souligne que c'est au minimum à l'échelle d'un continent qu'il faudrait pouvoir discuter de ses choix, et même à l'échelle de la planète. Et puis, au-delà même de cet aspect, même si l'échéance annoncée de 2022 était respectée, ça laisse encore 10 ans pour que des exploitants privés des centrales allemandes, eh bien, qui sont tout autant avides de profit que TEPCO peut l'être au Japon, eh bien, ça leur laisse 10 ans pour provoquer d'éventuels accidents. Il faut bien avoir en tête que des exploitants privés qui savent que leurs installations s'arrêtent dans 10 ans, ils seront particulièrement avares pour mettre de l'argent dans la maintenance. Encore plus en sachant que ça va s'arrêter. Et puis, autre question, qui mènera le démantèlement des centrales? Démantèlement qui n'a jamais été réellement fait, puisque le programme nucléaire a été lancé sans que cette question soit réellement réglée. Dans quelles conditions? Pour les travailleurs, pour les riverains? On peut en avoir une petite idée quand on voit le cas de l'amiante. Hein. L'amiante, elle est maintenant interdite après des décennies où elle ne l'était pas. Et on voit de multiples chantiers de désamiantage qui existent un peu partout, où ce sont des travailleurs sous-traitants, souvent mal informés, mal équipés, qui font donc ce travail et qui subissent directement les effets de l'amiante. On peut se rappeler qu'il a fallu toute une campagne pour que le gouvernement français, par exemple, renonce à faire démonter le vieux porte-avions Clémenceau bourré d'amiante dans un chantier en Inde, hein, où les travailleurs respirent en permanence tous les poisons. Eh bien, voilà comment les choses fonctionnent dans cette société, et c'est vrai pour tous les secteurs, ce point de vue-là. Alors, autre aspect encore, on peut parier que cette annonce de l'arrêt des centrales allemandes, tout comme d'ailleurs l'accident de Fukushima lui-même, eh bien ça va servir de prétexte aux opérateurs pour augmenter les prix. Parce que pour eux, bah, tous les prétextes sont bons pour ça. Et d'ailleurs, l'écologie, c'est un prétexte très bon pour augmenter les prix. On nous dit qu'il faut améliorer la sobriété et l'efficacité énergétique. Bon, mais la sobriété dans une société de classe où c'est une petite minorité de riches qui impose ses choix à l'immense majorité de la population, eh bien, ça veut dire la sobriété pour les pauvres, ça veut dire des taxes partout sur l'énergie, sur la pollution. En clair, ça veut dire que les classes populaires, elles pourront encore plus difficilement se chauffer, qu'elles devront se déplacer dans des transports dégradés, bah, pendant que les riches qui peuvent payer continueront à prendre l'avion quand ils voudront. Parce que dans ce marché capitaliste, c'est évidemment l'usager final qui paie la facture. D'ailleurs, la dernière augmentation de tarifs qui a été imposée en janvier dernier a précisément été justifiée par l'obligation qui est faite à EDF de racheter le surplus du courant qui est produit par l'éolien ou le photovoltaïque. Donc encore une fois, les pauvres paieront. Parce que dans cette société, eh bien, tous les choix, toutes les décisions, eh bien, elles finissent par se retourner contre les travailleurs, contre la population et contre la société elle-même. Et donc, tant que les décisions seront prises non pas consciemment, non pas collectivement, en prenant vraiment en compte, en pesant les conséquences, mais tant qu'elles seront prises dans le secret des conseils d'administration, par des actionnaires privés, ou même par des gouvernements, mais qui sont des gouvernements au service des actionnaires privés, eh bien, il y aura des dangers partout, techniques, mais pas seulement techniques. Ce qu'il faut imposer, c'est que les travailleurs, la population, les consommateurs, les riverains des installations, eh bien, ils puissent décider de tous les choix, qu'ils puissent surveiller l'application des décisions, qu'ils aient un contrôle permanent à toutes les étapes, à tous les niveaux. Il faudrait que toutes les informations qui sont connues par les travailleurs dans les installations puissent être rendues publiques sans entrave. C'est exactement le contraire de ce qui se fait aujourd'hui, et là encore les camarades vont témoigner. En réalité, ce qui serait nécessaire, ce qui est vital pour qu'enfin justement les progrès techniques profitent à toute la société sans détruire les hommes ni la planète, eh bien c'est d'en finir avec le capitalisme. Nous pensons que l'avenir n'est pas à l'abandon des techniques. Il n'est pas au repli réactionnaire et illusoire sur des petites productions relocalisées. Plus que jamais dans la société, la production elle est collectivisée. Les moyens de production, justement le développement des forces productives, a fait que ces moyens de production ils sont socialisés à l'échelle de la planète. Et ce qui est nécessaire, eh bien, c'est de lutter justement pour une transformation sociale profonde pour que ces moyens de production ils soient sous le contrôle direct des travailleurs. C'est-à-dire en fait de lutter pour le communisme, pour une organisation communiste de la société.
Mais tu as communiste.
Eh bien on va en discuter si tu veux tout à l'heure. À ce moment-là, eh bien on peut dire que quand ces moyens de production ils seront sous le contrôle de la population et des travailleurs, eh bien l'humanité elle pourra enfin satisfaire ses besoins en maîtrisant consciemment toutes les étapes. Et cette production planifiée, consciente, eh bien elle respectera aussi bien les hommes que la nature. Alors pour conclure cette introduction, moi je dirais qu'on fait nôtre cette phrase de Marx: la société elle-même n'est pas propriétaire de la terre, il n'y a que des usufruitiers qui doivent l'administrer en bon père de famille afin de transmettre aux générations futures un bien amélioré. Preuve que l'écologie, sur ce terrain-là, Marx la posait déjà.